Bonsoir et bon début de semaine à tous. Les consultations entre les groupes armés locaux de la RDC et les experts de la présidence congolaise se poursuivent ce lundi à Nairobi au Kenya. Certains groupes armés du Nord Kivu et Sud Kivu ont rejoint la table des négociations. La séance de dimanche s'est tenue sans la présence du M23 Makenga. Sa mise à l'écart était une exigence posée depuis samedi soir par les émissaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en raison de la reprise des combats par ce groupe armé dans le Nord Kivu. La facilitation kenyane a confirmé l'arrivée hier dimanche de plusieurs autres groupes armés opérant dans l'Ituri, déjà pris en charge du point de vue de la logistique par l'organisation. Mais sur place, en Ituri, les leaders des groupes armés se disent prêts à participer aux consultations. Cependant, ils déplorent le silence du gouvernement qui n'a rien dit jusqu'ici pour faciliter leur déplacement. Quelle lecture faites-vous de cette initiative prise par les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC? C'est le thème de votre magazine de ce soir. Participe au débat. Professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi. Professeur Serge Tshibangu, bonsoir. Je crois qu'on a un souci avec sa ligne téléphonique. Il intervient depuis Nairobi. La réalisation va essayer de le rappeler. Emmanuel Ngarouye Mouzi, député provincial élu de Rutshuru, au Nord Kivu. Emmanuel Ngarouye, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux nombreux auditeurs de la radio Okapi.
Et Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir madame Kodi, bonsoir à l'honorable et bonsoir à monsieur Tshibangu, le délégué de la présidence.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Moïse Angui, négocié avec les groupes armés. À mon avis, c'est décourager les militaires qui sont au front, mais aussi une façon d'exhiber la faiblesse de l'État congolais. Justin Sapou, depuis Kinshasa, à mon avis, je pense que l'heure est venue pour que tous ces groupes prennent conscience de mettre fin à cet activisme, car le pays a besoin de se développer et d'être construit. À Nairobi au Kenya, vous nous suivez sur www.radiokapi.net et si vous êtes à Rutshuru, au Nord Kivu, rejoignez-nous sur la 95.3 FM. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Kapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Troisième jour, ce lundi, des consultations sur la paix entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi. Alors qui vous, les groupes armés locaux, déjà conviés, attendent toujours les moyens pour rejoindre la capitale kenyane. Pendant ce temps, nombreux autres groupes armés affirment n'avoir pas encore reçu d'invitation formelle. Bernard Danyangi pour plus de détails.
Jusqu'à la fin de la matinée ce lundi, une grande délégation des représentants des groupes armés du Nord Kivu, qui ont déjà finalisé les formalités pour le voyage à Nairobi, attendait toujours leur avion à Goma, selon les sources proches de ce groupe. Il s'agit entre autres d'un de ses rénovés, de Mapenzi Fidèle et de Ziré Ngabo, l'UPDC de Billy Koliko, FDDH Nyatura de Dusabe Gachamira, GAV de Matata Suleiman, AFRC de Kakule Massivi et APCLS L. Paul Mwanuka. Nombreux autres groupes armés importants affirment avoir déjà été contactés, mais disent attendre une invitation formelle pour cette mission en Nairobi. C'est entre autres l'APCLS de Janvier Kalaeri, dont le porte-parole précise que leurs délégués attendent encore une confirmation plus convaincante avant de venir à Goma pour des formalités. Même chose pour le collectif des mouvements pour le changement SEM Signatura de Rutshuru et FPP de Kabidon, actifs en territoire de Lubero. Aussi, selon nos sources, les délégués de ces groupes armés locaux en attente à Goma depuis deux jours se plaindraient déjà du fait que leur prise en charge ne soit pas encore assurée. Goma, Bernardin Ngui, Radio Okapi.
Et en Ituri, les leaders des groupes armés se disent prêts à participer aux consultations qui se tiennent à Nairobi au Kenya. Cependant, ils déplorent le silence du gouvernement qui n'a rien dit jusqu'ici pour faciliter leur déplacement en vue de prendre part à ces assises pour la pacification de l'Est de la RDC. Isaac Remoyope pour le reportage.
Parmi les milices qui sont actives en Ituria, la Force Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC et l'Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais IRDPC CODECO. À cela s'ajoute la Force des Résistances Patriotiques de l'Ituria FRPI qui avait signé depuis 2 ans un accord de paix avec le gouvernement. Le leadership de la CODECO indique qu'il a reçu il y a quelques jours un appel anonyme pour solliciter leur participation à cette rencontre à Nairobi. Mais aucune source officielle n'a encore contacté cette milice pour les modalités pratiques. Cependant, ils se disent favorables au processus de paix initié par certains chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Même réaction du côté de la milice FPIC qui attend les orientations des autorités pour participer à ces assises. Du côté du groupe armé FRPI, ses leaders attendent l'application des clauses de l'accord signé en février 2021 à Guéti. Nous n'avons pas encore la réaction du gouvernement militaire de l'Ituri par rapport à ces doléances de ces différents groupes armés. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Emmanuel Ngahuye Mwozi, vous êtes député provincial élu de Rutshuru au Nord Kivu. Quelle lecture vous faites de cette initiative prise par les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC?
Merci beaucoup, madame. Je commence par saluer encore une fois, vous saluer et saluer tous les co-débatteurs. Et même si le professeur n'est pas encore en ligne, je commence par compatir d'abord avec toutes les victimes des exactions des différents groupes armés qui se sont succédés depuis les années 90, parce que les victimes sont vraiment nombreuses et donc il est important que la solution soit recherchée. Par ailleurs, il est difficile que nous puissions trouver la solution sans que nous puissions bien comprendre le problème. Et vous le savez, plusieurs initiatives ont déjà eu lieu, mais il se remarque qu'en conséquence, les résultats positifs ne sont pas toujours là. Et nous sommes vraiment à plusieurs initiatives qui ont déjà été prises dans ce sens, des dialogues, des négociations, mais jamais les populations, depuis l'AFDEL, les populations de l'Est particulièrement n'ont jamais trouvé la paix. Ça signifie que jusque-là, les dirigeants congolais n'ont jamais compris les problèmes. Et lorsque les responsables d'un pays ou les dirigeants du pays ne comprennent pas, alors les voisins qui ont tout intérêt à avoir une RDC à genoux, pleurnichards, faibles, se frottent les mains et aident davantage les dirigeants à aller hors plaque, à aller hors problème, afin que les désordres puissent persister, parce que c'est dans le désordre que les pays voisins profitent. Je voudrais donc dire que il est mal indiqué que l'on dise que c'est une initiative qui concerne les groupes armés locaux et qu'on aille à Nairobi. À Nairobi, autour des chefs d'État. Ça signifie donc que les chefs de l'État congolais et tous les dirigeants congolais ne sont pas en mesure de gérer les problèmes internes. Peut-être on allait nous dire qu'à Nairobi, ça devait concerner le M23, qui est un groupe créé, armé, entraîné, équipé par les pays voisins, notamment le Rwanda, et peut-être les problèmes des FDLR, les problèmes des Goumino, qui sont des groupes créés par les pays voisins. Cela devait concerner donc l'étranger, donc le Nairobi. Mais pour les groupes armés locaux, ça devait se traiter au Congo. Si, dis-moi, nous avons des dirigeants qui connaissent leur pays, leurs problèmes, et qui sont prêts à y apporter des solutions.
Qu'est-ce qui vous dérange, vous, Emmanuel Ngahuye, que ces assises se tiennent à Nairobi? Est-ce mauvais d'avoir une médiation internationale? Puisque vous-même, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens en RDC, mais ça n'a pas donné des résultats positifs. Pourquoi n'est pas tenter avec l'aide des pays de la sous-région, des pays de l'Afrique de l'Est?
Merci beaucoup, madame. Vous le savez, dans cette organisation de l'Afrique de l'Est, il y a des pays qui jusqu'aujourd'hui gardent des criminels, des gens, des personnes qui ont commis des crimes graves au Congo et qui n'ont pas eu un seul instant cette bonne foi de ramener ces criminels au Congo. Nous avons des pays voisins qui ont, depuis la guerre de l'AFDEL, massacré les Congolais, qui ont pillé le Congo, qui ont commis des graves violations des droits humains au Congo. Mais aujourd'hui, c'est chez eux que nous voulons aller chercher la solution à nos problèmes. C'est chez eux que nous voulons chercher la paix et le développement. Alors qu'ils sont les premiers qui gardent nos criminels visiblement, qui les forme, qui les arme, qui les envoie, et après, lorsque c'est eux qui créent le problème, nous nous allons chez eux pour chercher aussi la solution. Chez eux, c'est vraiment une approche que nous avons toujours tentée depuis l'ancien régime qu'aujourd'hui. Nous avons toujours utilisé cette même méthode. Elle n'a jamais produit de bons résultats, et nous, je pense que nous devrions expérimenter une autre approche qui n'est pas celle de chercher la guérison chez son sorcier.
Expérimenter une autre approche, laquelle, par exemple?
L'approche à expérimenter, c'est d'abord un, que les dirigeants congolais puissent comprendre le problème, puissent comprendre que l'État doit prendre ses responsabilités. Ses responsabilités signifient savoir qui sont les voisins, quels sont leurs intérêts et quels sont nos intérêts. Et lorsqu'on comprend le problème, on sait maintenant se dire, je dois organiser l'interne en conséquence, et je dois faire une diplomatie en conséquence. Et donc comprendre et prendre des mesures adaptées au problème que vous avez bien compris. Mais lorsqu'on ne l'a pas compris, on fait des fausses thérapies et on revient à la case départ chaque jour.
Emmanuel Ngahouye, vous n'accordez donc pas de chance quant à l'aboutissement de ces assises qui se tiennent à Nairobi.
En tout cas, jusque-là, pour moi, je suis dubitatif, parce que les groupes armés locaux ne peuvent pas aller discuter à Nairobi. Les groupes armés locaux doivent discuter au Congo, et ça doit être l'initiative des dirigeants congolais et non pas de la région.
Professeur Serge Tshibangu, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes mandataire spécial du président de la République et chef de la délégation de la présidence de la République aux consultations de Nairobi. Ces consultations de paix entamées depuis samedi 23 avril se poursuivent ce lundi à Nairobi au Kenya. Est-ce que vous confirmez d'abord que les travaux sont en cours?
Oui, madame. D'abord, merci pour la question et merci. Je salue en même temps les auditeurs de la radio Capi ainsi que mes collègues qui sont sur le plateau avec vous. Alors, les assises continuent, effectivement. Après avoir commencé très timidement, le premier jour, comme vous l'avez annoncé, qui était samedi, nous avons eu à peu près 7 groupes armés qui sont principalement du Sud-Kivu, qui sont arrivés hier dimanche. Et aujourd'hui, ce soir, nous nous attendons à avoir une bonne représentation des groupes armés, que ce soit de Nord-Kivu comme de l'Ituri.
Professeur, combien des groupes armés sont invités à ces assises?
La vérité, c'est que vous devez d'abord savoir que c'est un processus qui vient de démarrer. Un processus veut dire qu'il y a des étapes. Et pour le moment, nous avons les quelques groupes armés qui sont malheureusement les plus violents, qui sont invités. Et l'idée, c'est au fur et à mesure que le processus sera entamé, on va continuer. Bien sûr, tous les autres groupes armés seront sûrement consultés. Alors, la précision ici, c'est que nous ne parlons pas ici de négociations. Par contre, selon la volonté du président, son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est question de leur parler et de les écouter, et parler pour leur passer le message clair qu'il est temps de déposer les armes, qu'il est temps de se rendre inconditionnellement, pendant que le président de la République leur tend la main. Voilà un peu le message qui va passer, que ce soit à ceux qui sont ici, comme à ceux qui ne pourront pas y être.
Alors, on retient que vous n'avez pas le nombre exact des groupes armés qui doivent prendre part à ces assises. Vous venez de le dire, vous êtes là pour parler avec les groupes armés, les écoute. Vous avez suivi tout à l'heure le député Emmanuel Ngahouye Mozi qui se pose la question de savoir pourquoi, pour des groupes armés locaux, ces pourparlers doivent se tenir à Nairobi, si c'est vraiment des problèmes qui concernent la RDC avec ces groupes armés locaux.
Alors, avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais quand même préciser que le nombre exact vous sera communiqué dès que nous sommes sûrs que les autres qui doivent venir, que nous attendions, atterrissent à Nairobi. Parce que, comme vous le savez, les processus de paix ne sont pas des processus faciles. Il peut arriver, parce qu'on a connu comme ça le vendredi, il y a certains groupes armés qui avaient dépêché quelques délégués et juste au moment où ils devaient être transportés, malheureusement, ils ont changé d'idée. Alors, c'est pour ça que je préfère, pour être sûr, attendre qu'ils arrivent ici. Et dès qu'ils sont arrivés, je pourrais vous donner alors le nombre exact de ceux que nous avons eu samedi, dimanche et aujourd'hui, donc cette soirée. Ça, c'est d'une part. Alors, j'aimerais remettre mon cher député dans le contexte même qui nous a conduit à avoir ces discussions ici à Nairobi. Tout est parti de ce qu'on a appelé Nairobi 1 le 8 avril, là où quatre chefs d'État se sont retrouvés à Nairobi pour parler de la situation d'insécurité à l'est du pays. Et il vous souviendra donc que la RDC a joint tout récemment la communauté de l'Afrique de l'Est, et en fonction de la charte sur la paix et la sécurité de l'Afrique de l'Est, je vais vous résumer en mes propres termes que tout pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est qui se sent agressé, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur, cela concerne automatiquement toute la communauté. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, durant ce sommet donc des chefs d'État, qui n'était pas d'ailleurs un sommet prévu, vous vous souvenez que le président Tshisekedi, le 8 avril, était venu plutôt pour signer l'adhésion de la RDC à cette communauté, c'est à ce titre-là qu'il y avait quelques chefs d'État présents à cette cérémonie, et dans leur tête-à-tête qu'ils ont eu, la question est sortie, c'est ainsi que cette partie a été tournée en, si je ne vais pas appeler, mini-sommet des chefs d'État. Alors, ils s'étaient convenus de se retrouver deux semaines après, ce qui a été le cas le 21 avril, là où, cette fois-là, il y avait un cinquième chef d'État qui était invité, c'est celui du Burundi. Et le communiqué final qui a sanctionné cette discussion ou cette rencontre des cinq chefs d'État de la communauté a préconisé une solution globale de la région, parce que pratiquement près de 5 pays sur 7 de la communauté se retrouvent dans les mêmes problèmes. Alors, c'est ainsi que le problème de la RDC est un problème qui a été ramené au niveau de la région. C'est ainsi qu'ils ont décidé donc, que les chefs d'État ont donc décidé qu'il fallait une approche à la fois politique comme une option militaire qui reste ouverte.
Alors, professeur Serge Tshibangu, certaines sources pensent que le principal interlocuteur, c'est plutôt le M23. Mais pour éviter certaines réactions de la population, le gouvernement a décidé d'associer d'autres groupes armés locaux, juste pour ne pas énerver certaines sensibilités, pour un peu flouer la population, maquiller un peu l'affaire.
Madame, quand les groupes armés sévissent contre les communautés, contre les Congolais et Congolaises, un coup de fusil tiré par M23 ou tiré par un PCLS, par exemple, tue de la même manière. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous qui sommes sur le terrain en plein exercice, je crois que vous avez sûrement suivi que, alors que nous avions démarré les discussions le samedi avec les groupes armés qui étaient déjà arrivés, entre autres le M23 Makenga qui était dans la salle, dans l'après-midi, Kinshasa nous informera que les positions de nos troupes étaient attaquées à l'est du pays. Et à cause de cela, nous avions exigé que le M23 soit exclu de ces discussions et nous devions continuer avec les autres groupes armés. Alors, pendant que je vous parle jusqu'à aujourd'hui, donc c'est le troisième jour, le M23 Makenga n'est pas dans la salle, pendant que tous les autres groupes armés qui sont présents à Nairobi se retrouvent dans la salle et les assises continuent. Parce que nous disions pour nous que ce n'est pas à cause du M23 que le message de son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas parvenir à ses frères et sœurs qui, eux, ont choisi la voie des armes pour s'exprimer. Donc, si vraiment c'était pour le M23 que tout ça a été boutiqué, je pense qu'à ce jour, madame, vous aurez appris que les travaux étaient sûrement suspendus, ce qui n'est pas le cas.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, vous êtes expert actuellement en désarmement et en droit international humanitaire. Votre lecture sur cette initiative prise par les chefs d'État des pays de l'EAC pour mettre enfin, l'activisme des groupes armés dans la partie est de la RDC.
Merci beaucoup, madame. Je salue le député que je n'ai pas vu il y a longtemps. Et également, monsieur Tshibangu. Ma lecture ou peut-être un commentaire à faire en rapport avec ce que nous constatons tous, parce que c'est un fait qui est arrivé. Il faut d'abord circonscrire cela dans les faits historiques qui ont émaillé l'affaire sécuritaire de l'Est du pays. Ces discussions, qu'on les appelle consultations, négociations, ou quoi que ce soit, peu importe l'appellation, sont une répétition de l'histoire. Vous vous rappelez qu'en 2008, pendant que les M23, les CNDP menaçaient Goma, ils étaient à la porte et la MONUSCO à l'époque avait demandé qu'il y ait des discussions. Et c'était à la suite d'une résolution que le président Kabila avait convoqué la conférence sur la paix, la sécurité et le développement au nord et au sud du Kivu. C'était pour ce même problème ici sur lequel nous discutons aujourd'hui. La conférence a eu lieu, il y a eu un acte d'engagement. cet acte d'engagement-là devait être mis en œuvre par le programme Amani. Je vais rappeler cela à M. Tshibangu qui représente la présidence de la République parce qu'il semble vouloir oublier l'origine du problème qui fait qu'il y ait autant de groupes armés aujourd'hui. Vous savez, moi-même, j'ai paraphé cet acte d'engagement à la conférence de Goma qui a causé la participation presque du monde entier. Après cet épisode, on est parti jusqu'à la révolte du CNDP de nouveau qui a relancé les hostilités pour demander au gouvernement, exiger au gouvernement de faire plus. Et c'était sur l'influence du Rwanda. C'est là que la vérité doit être dite. Le CNDP n'ayant pas réussi à obtenir gain de cause en faveur de celui qui les soutenait à l'époque, a relancé les hostilités. Les autres groupes qui ont obéi comme ils le font aujourd'hui en se rendant à Nairobi, ils étaient tous à Goma dans le cadre du programme Amani. Mais ils n'avaient jamais initié les hostilités contre le gouvernement jusqu'à l'amener à négocier. Ça, alors M. Tshibangu doit savoir cela. C'est-à-dire, quand la guerre reprend, les meneurs de jeu extérieurs, c'est-à-dire les acteurs externes des pays voisins, qui ont un intérêt vital dans les conflits ou dans les hostilités qui se déroulent à partir des groupes qu'ils manipulent. Ils essaient de pousser des liens extérieurs pour amener le gouvernement congolais à fléchir et s'agenouiller devant des milices qu'eux-mêmes créent. Alors, si M. Tshibangu et le gouvernement de Kinshasa, et notamment la présidence qui visiblement accepte de ces... Je pense que c'est une façon de s'informer. Ça ne résoudra pas le problème et l'initiative qui a été prise à Nairobi. En amenant tous les groupes à Nairobi, vous avez le M23 qui a repris les hostilités. Si je les rappelle bien parce que j'ai coupé. Le M23 est la conséquence. C'est justement les revendicateurs des accords du 23 mars 2009 de Goma. Vous avez ma signature là-bas. J'ai été à Nairobi invité par la CIRGL, les Nations Unies et l'Union Africaine sous Olusegun Obasanjo comme médiateur, sous Benjamin Mkapa comme médiateur, des ex-présidents des pays voisins et des pays, disons, membres de l'Union africaine. Nous avons discuté de cette question, mais parce que le gouvernement de Kinshasa n'a pas pris l'occasion à mai pour définitivement restaurer l'autorité de l'État sur le terrain, voilà encore une fois ses voisins lui ont mis un bouton dans les roues pour lui dire, voilà encore une fois, nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont vous avez résolu le problème, nous relançons encore notre supplétif pour qu'il vous dérange afin que vous acceptiez de nous satisfaire. Voilà le problème.
Vous êtes pessimiste, Didier Bitaki. Vous pensez que ça ne va totalement, rien donner, ces assises de Nairobi?
Parce que le problème n'est pas compris. Écoutez-moi, madame. Je suis totalement pessimiste parce que le problème de l'Est, du Nord Kivu et de l'Ituri n'est pas compris par le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Nous avons les FDLR que le Rwanda utilise comme étant ses adversaires qui menacent l'intégrité du territoire rwandais et le pouvoir en place. Ils sont en République démocratique du Congo. Le Rwanda arrive à Nairobi autour d'une table avec le chef de l'État congolais. Il lui dit, monsieur le président, vous devez négocier avec des groupes armés locaux. Où sont les FDLR dans ces négociations-là? Si on doit demander au gouvernement congolais de négocier avec les CNDP, les M23, je ne sais qui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que le M23 est le déclencheur à l'intérêt du Rwanda, attaquer l'armée congolaise. Mais dans l'entretemps, on dit que c'est le Rwanda qui est menacé, alors il faut régler le problème en interne à RDC. Mais on le règle où? C'est pas à Goma, à Kinshasa ou à Bunia. Le problème est réglé à Nairobi. Mais ça c'est la répétition de l'histoire. Qu'est-ce qui dit que demain, quand on aura pris les éléments du M23, on prend les éléments de tous les groupes armés comme ce fut le cas en 2009, le même problème ne va pas surgir en disant vous gardez des rebelles chez nous et pour nous sécuriser, nous vous envoyons vos milices là-bas pour que vous négociez avec eux. C'est la répétition de l'histoire.
Merci.
On ne peut pas utiliser la même formule chaque jour pour s'attendre à un résultat différent.
Place maintenant aux auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Kalemi dans la province du Tanganyika pour écouter cet auditeur. Pour vous, professeur Serge Tshibangu.
C'est Tshikout Nawe Jalin depuis Kalemi. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais quel de ces pays voisins pouvait accepter de négocier avec les groupes armés? Je pense que la RDC doit bien définir ce qu'elle veut réellement. Certes, ces consultations vont atténuer un peu l'activisme des groupes armés et les tueries à l'est de la RDC. En réalité, ces pourparlers ne vont rien résoudre. C'est une distraction pure et simple. Tous ces pays qui accompagnent la RDC dans cette démarche ne sont pas pour la RDC. Toutes les autorités congolaises doivent être très vigilantes tout en sachant que le pays s'est adhéré dans une organisation de pays qui ne nous veulent pas la paix, quand bien même nous allons vers eux pour chercher cette même paix.
Brève réaction, professeur Serge Tshibangu. Alors, on l'a encore perdu. La réalisation va tenter une fois de plus de le relancer, le rappeler. Après Kalemi, on va se rendre à Kinshasa pour écouter cet autre auditeur. Pour vous, Emmanuel Ngarouye-Mozi.
Monsieur Peter Maboudi, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. L'initiative prise par les pays membres de l'EAC pour mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC est une bonne chose. Cependant, l'histoire, plusieurs sommets du genre ont été organisés aboutissant aux accords avec ces groupes armés sans l'issue favorable. Je pense que le gouvernement congolais devrait, après une analyse approfondie, orienter sa politique sécuritaire sur deux dimensions. La première dimension, pour les groupes armés locaux, le gouvernement devrait intégrer les autorités coutumières dans les négociations avec les populations égarées. Deuxièmement, accélérer le processus d'identification de la population congolaise en vue de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Deuxième dimension, pour les groupes armés étrangères, et réformer notre armée nationale en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer nos frères et sœurs de l'Est du Congo.
Réaction, Emmanuel Ngarouye.
Merci beaucoup, madame. Je regrette que le professeur ne soit pas avec nous en ligne.
Il est là, il est là. Là, c'est la réalisation, me signale qu'il est revenu. Mais répondez quand même à la préoccupation au point de vue de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kinshasa.
Merci beaucoup. Je commence par regretter que les représentants du chef de l'État aux assises ne connaissent pas le nombre de groupes armés invités. Et cela démontre ce que vous avez dit dans votre introduction, qu'il y a des groupes jusque-là qui disent qu'ils ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas d'invitation officielle. Et donc, c'est vraiment un problème très sérieux. Et comme l'a si bien dit Monsieur Didier Bitaki, ici au Nord Kivu, particulièrement ici au Nord Kivu, lorsqu'il y a de tels processus, des personnes qui sont souvent responsabilisées sont aussi issues des anciens groupes armés et ont des intérêts. Ils ont donc des personnes à écarter et des personnes à choyer. Et c'est comme ça que certains se voient toujours écartés parce que la guerre ou l'insécurité, c'est une affaire juteuse pour certaines autorités. Et vous allez remarquer, et peut-être le professeur va aussi le remarquer, les groupes armés ont toujours, lorsque des processus pareils commencent, des groupes armés sont dédoublés, voire même triplés. Et tout ça se fait par des personnes qui ont été créées à dessein et qui sont le plus souvent parmi les grands décideurs de la République. Et donc, et comme je le disais au départ, le problème, c'est la compréhension par les du vrai problème à résoudre. J'arrive maintenant à la question de notre auditeur, Monsieur Peter Maboudi. Lui, il trouve qu'il faut que l'initiative n'est pas la première, comme je l'ai dit, et que pour lui, il faut intégrer les groupes, les chefs coutumiers dans l'initiative. Il faut identifier les Congolais, mais aussi il faut renforcer l'armée. Bon, je suis presque d'accord avec certaines propositions, mais la plus grande proposition, c'est vraiment l'armée. Mais notre armée n'est pas faible, mais elle est rendue faible à dessein par des personnes qui ont été injectées depuis toutes les rébellions sur les postes stratégiques, selon les demandes des pays voisins qui les parrainent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des officiers supérieurs de la RDC, mais qui ne répondent pas en premier aux ordres de la RDC, mais qui sont seulement là pour représenter les intérêts des pays qui les ont envoyés dans différentes rébellions à partir de l'AFDL jusqu'à aujourd'hui. Et si aujourd'hui le M23 peut réclamer aussi encore d'entrer dans l'armée, c'est pour parachever cette mission. Et donc, la première des choses, il faut renforcer l'armée congolaise, il faut la payer, parce que l'armée congolaise est aguerrie. Ici au Nord Kivu, nous avons vu comment en 2013, les FARDC ont mis en déroute les M23, sous la direction du fait général Bauma et du colonel Mamadou, et c'est la même armée que nous avons. Il suffit seulement qu'elle soit équipée, qu'elle soit payée, qu'elle soit mise dans les conditions qui leur permettent de travailler.
Professeur Serge Tshibangu, on va reprendre pour vous la réaction de cet auditeur qui nous appelle de Kalemi, et on revient juste après.
C'est Tshikout Nawe, j'allais depuis Kalemi. qui veut la paix prépare la guerre. Mais quel de ces pays voisins pouvait accepter de négocier avec les groupes armés? Je pense que la RDC doit bien définir ce qu'elle veut réellement. Certes, ces consultations vont atténuer un peu l'activisme des groupes armés et les tueries à l'est de la RDC. En réalité, ces pourparlers ne vont rien résoudre. C'est une distraction pure et simple. Tous ces pays qui accompagnent la RDC dans cette démarche ne sont pas pour la RDC. Toutes les autorités congolaises doivent être très vigilantes, tout en sachant que le pays s'est adhéré dans une organisation de pays qui ne nous veulent pas la paix, quand bien même nous allons vers eux pour chercher cette même paix.
Professeur Serge Tshibangu, cet auditeur a raison ou il a tort?
Je n'irai pas sur cette route-là, madame, si M. Nawel de Kalemi a raison ou a tort, mais j'aimerais juste premièrement préciser que nous ne sommes pas ici en train de négocier avec n'importe quel groupe armé. Je pense que, y compris mes co-débatteurs qui sont sur le plateau et qui me donnent l'impression d'avoir des solutions autour des manches, sans pouvoir résoudre des problèmes, des tueries perpétrées par ces mêmes groupes armés qu'ils appellent des petits groupes armés. Mais la vérité, c'est que son Excellence le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va partout où il y a des possibilités de trouver la paix pour nos populations qui souffrent, pour nos populations qui se retrouvent pendant des années comme réfugiés dans des pays ou même dans la forêt. Ce sont ces mêmes co-débatteurs qui aujourd'hui essayent de démontrer que ce problème des groupes armés, c'est comme si c'était un problème qui avait commencé avec le président Tshisekedi. C'est un problème, je vous le rappelle, ils le disent eux-mêmes, qui a commencé des années en antérieure, avec le régime passé. Et aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui essaye de trouver des solutions à des problèmes qui pendant 20 ans, plus de 20 ans, des solutions n'ont jamais été trouvées. Alors troisièmement, nous sommes en train de dire qu'il faudra, pour préparer avoir la paix, pour préparer la guerre. La vérité, c'est que monsieur Didier et le député qui est sur le plateau me démontrent clairement qu'ils n'ont même pas lu le communiqué qui a sanctionné la réunion de ces chefs d'État. Parce qu'il y a une partie de un des articles de ce communiqué stipule que la région a décidé de mettre sur pied une force régionale qui, elle, prendra des actions militaires contre les groupes armés récalcitrants, y compris les forces négatives, donc ces groupes armés étrangers qui opèrent à partir de la RDC, comme les groupes armés locaux qui, eux, sont composés des Congolais qui opèrent sur notre propre territoire, sur leur propre territoire. Ça, c'est de un. Deuxièmement, la main tendue du chef de l'État par rapport à ces groupes armés pour déposer les armes, c'est une main qui n'a jamais été tendue par les autres, mais qu'aujourd'hui, le chef de l'État se dit, ce sont nos frères et sœurs qui sont en train de verser le sang de nos propres frères, de nos propres sœurs, parce qu'aujourd'hui, si nous comptons les morts à cause de la guerre, c'est bien. Mais est-ce que vous comptez les morts indirects, par exemple ceux-là qui sont dans la forêt, là où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins, est-ce que vous comptez les morts dans les camps de réfugiés? Alors qu'est-ce que nous faisons? Si on nous donne là, par exemple, les ex-M23 qui ont créé et des réfugiés et eux-mêmes sont des victimes, se retrouvent près de 400 000 réfugiés au niveau de l'Ouganda, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème?
Alors, professeur Serge Tshibangu,
nos débatteurs puissent amener des solutions autres que ces solutions dont ils disent qu'elles ne marcheront jamais. La différence ici, par rapport au passé, c'est que nous avons un chef d'État qui est sincère avec ses frères et sœurs, avec ses compatriotes, qui les appelle à baisser les armes et qui les appelle à entrer dans un processus de paix qui leur permettra la réintégration dans la vie nationale.
Alors, mais ce n'est pas le premier appel.
Je ne veux pas parler d'intégration dans l'armée.
Ce n'est pas le premier appel du président Tshisekedi fait à ces groupes armés. Je dis, ce n'est pas le premier appel fait par le chef de l'État à ces groupes armés.
Nous sommes totalement d'accord et il le fera encore. Jusqu'à ce que, à un certain moment, il y aura sûrement une ligne rouge à ne pas passer, qui c'est là, alors, dans l'esprit du communiqué des chefs d'État, ça sera donc les actions militaires.
Alors, ce genre d'initiative, ne pensez-vous pas, professeur, que ce genre d'initiative risque d'ouvrir la voie à la naissance d'autres groupes armés dans le but de trouver gain de cause par le dialogue?
Ce que nous pensons,
c'est que si malheureusement les autres processus donc du passé perpétrés par l'ancien régime n'avaient pas affaibli notre armée, je ne pense pas que nous aurions eu cette discussion aujourd'hui, madame. Ce que je pense, c'est que pendant que son Excellence président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de mettre sur pied des mécanismes pour réformer notre armée, pour la rendre beaucoup plus forte, entre temps, ce qu'il y a à faire, c'est de tendre quand même la main. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Rien ne dit que le FRDC, que aujourd'hui les gens qualifient, les co-débatteurs qualifient de faible, restera faible demain. Mais au moins, il y a du réalisme. Ce réalisme, c'est nous voulons nous joindre à certains de nos frères et sœurs pour pouvoir résoudre des problèmes qui ne concernent pas que la RDC. Ça concerne même ces pays voisins également. Ces forces étrangères qui opèrent à partir de nous, ce n'est pas contre nous qui combattent, contre les Congolais. C'est plutôt contre leur régime respectif. Alors, je pense qu'une solution holistique était demandée.
Merci.
Donc, mettons-nous ensemble, regardons les choses en face et trouvons les solutions, que ce soit pacifique comme militaire.
Didier Bitaki, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction.
Jean-Baptiste Léning, à moi depuis le centre d'Arioara, dans les territoires d'Aro, en Ituri. C'est très difficile de se contenir pour saluer cette phase des négociations, parce qu'au-delà de tout, c'est pessimiste d'espérer à de durables résolutions sortant de cette table des négociations. Cette manière de discuter avec les groupes armés n'est rien d'autre qu'un facteur de la faiblesse d'un État et qui n'est pas à mesure de s'imposer. Dans cette négociation, c'est sûr et certain, l'État faible sera toujours l'assujetti. Il est aussi important de retenir que ces groupes armés soutenus par le Rwanda et l'Ouganda ont derrière eux toute une organisation multinationale. La meilleure solution pour moi, c'est de donner de la force à notre armée, à la renforçant sur tout le plat. À d'autres termes, c'est de reconstruire une armée forte et capable de pouvoir nous sécuriser. En dehors de cette solution, il n'y en a pas autre.
Brève réaction, soyez bref, Didier Bitaki.
Oui, j'accueille à juste titre la réaction de ce dernier auditeur. Et c'est justement ça ce qui résume l'entièreté de mon point de vue que je venais de donner. Mais le problème qui se pose, c'est que ici, je vais recadrer le professeur Tshibangu. Personne n'a dit, ni accusé l'armée d'être faible. Personne n'a dit que le président Tshisekedi serait l'auteur de ce qui arrive aujourd'hui parce qu'il a trouvé une situation. Je vais le recadrer en disant, lui-même devrait d'abord comprendre qui est le semeur des troubles à l'Est. Parce que quand il faut appel aux groupes armés, il se présente. Qui connaissait les contacts de ces groupes armés? N'est-ce pas les militaires et les FRDC et des personnes qui sont en contact avec les membres du gouvernement qui ont facilité cela? Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose. Comment voulez-vous qu'on vous parle d'une paix qui doit passer par des solutions internes entre Congolais? Vous allez à Nairobi pour négocier avec des pays qui vous ont agressé et qui vous tiennent toujours sous leur joug pendant que le problème vous concerne chez vous, mais il vous les renvoie et il vous dit, vous battez et dans l'entretemps vous allez négocier par la suite. On n'aura pas de solution comme cela. Le manque, le malheur du peuple congolais aujourd'hui, c'est que c'est le fait d'avoir des dirigeants qui sont en éternelle campagne. Même quand ils entrent au pouvoir, ils commencent à mener campagne, à faire la promotion des personnalités jusqu'à la fin. Si nous ne parlons pas du chef de l'État, nous parlons d'un problème d'insécurité qui déstabilise une partie du pays et il y a des populations civiles victimes. Les civils victimes ont des solutions que moi personnellement, et vous le savez, j'ai eu à les proposer et j'en détiens encore d'autres. Des solutions existent, mais il faut qu'on écoute les gens qui vous disent voici là où se trouve le problème et la solution à donner c'est celle-ci. Si vous utilisez cette méthodologie, vous réussissez. Ne nous amenez pas dans une campagne où il faut appuyer le chef de l'État ou peut-être refuser. On n'est pas dans un parti politique ou dans une campagne politique. Nous cherchons la paix pour l'Est, il faut alors écouter ceux qui peuvent avoir des propositions à donner pour savoir comment résoudre le problème. La solution ne viendra pas de Nairobi, je l'ai dit. J'insiste parce que ce n'est pas le premier round de négociation. Il y a des années, plus d'une dizaine d'années, qui se sont écoulées, on négociait toujours à Nairobi, on n'a pas trouvé d'ici. Les réponses à ces problèmes pour restaurer la paix à l'Est se trouvent à Kinshasa. Et ce qu'on demande à Kinshasa de faire, c'est d'abord procéder par la restauration de l'autorité de l'État, donc imposer le pouvoir public, ensuite réformer le... Donc c'est un problème, c'est une solution multisectorielle. On n'a pas le temps de détailler tout, mais on peut donner, on peut aider les institutions à pouvoir le faire, sans qu'on soit membre, on n'en a même pas besoin.
Alors,
mais
c'est une
paix qui passe par des propositions que nous donnons tous pour la stabilité de notre pays et ne pas considérer que nous sommes dans une opposition où les uns tiennent ceci, les autres non, c'est
merci.
Notre pays, nous devons nous aider et nous prendre pour ne pas désorienter le chef de l'État qui risque de se retrouver dans la situation où son prédécesseur se trouvait pour relancer encore le M23.
Merci Didier Bitaki, vous avez répondu déjà à ma dernière question qui était la conclusion pour vous sur les solutions, vous y avez déjà répondu, merci beaucoup, on va considérer votre dernière prise de parole comme votre conclusion. Emmanuel Ngarouye, en 30 secondes, votre conclusion par rapport au débat de ce soir.
Merci beaucoup. Je commence par compatir avec le chef de l'État qui a hérité d'une situation, mais il n'est pas étranger, il est congolais, il a battu campagne sachant le problème qu'il attendait. Et donc je profite pour demander au conseiller du chef de l'État, le professeur Chibangu, de bien vouloir profiter de ce temps pour marquer positivement l'histoire en évitant de copier les solutions qui ont échoué aujourd'hui et éviter aussi de continuer avec les mêmes personnes qui ont plongé ce pays avec l'ancien régime dans ces problèmes. Je suis convaincu que la RDC ne devait pas aller prendre seulement des propositions des autres, mais la RDC devait demander au Burundi de négocier avec ces rebelles qui sont au Congo, au Rwanda la même chose et à l'Ouganda la même chose, et la RDC restera quitte. Je termine
merci.
En disant que aussi longtemps que ce régime continuera à écouter les bourreaux sans écouter les victimes, la solution ne viendra jamais.
Merci Emmanuel Ngarouye. Professeur Serge Chibangu, une dernière question avant de nous séparer. Dites-nous, qui assure la médiation avec les groupes armés?
Alors, il s'agit ici, et je crois que c'est important que j'informe mes co-débatteurs et même les auditeurs de la radio Capi, que le communiqué qui a sanctionné la réunion des chefs d'État a désigné le président Uhuru Kenyatta du Kenya de chapeauter la partie politique du processus de paix, non seulement pour la RDC, mais pour la région également. Et deuxièmement, le même communiqué, et ça c'est pour répondre aux députés tout à l'heure, c'est que ça, le communiqué exige également à tous les autres pays frontaliers qui ont des rébellions qui opèrent à partir de chez nous, nous exigeons, ça c'est le communiqué qui le dit, le retour sans condition de ces groupes armés étrangers dans leur pays d'origine, et arrivés dans leur pays d'origine, ils ont leur propre mécanisme qui feront ce qui ne nous regarde pas.
Et alors, donc c'est la présidence du Kenya, s'il vous plaît, c'est la présidence du Kenya qui contacte les différents groupes armés qui doivent prendre part aux assises.
Oui, je peux tout vous dire. La présidence kenyane a demandé l'implication pour avoir une liste d'implication et des pays voisins et de la RDC pour pouvoir identifier. Alors je précise que c'est un processus. Nous ne disons pas que ce qui se fait à Nairobi depuis deux jours sera la fin du processus. Le processus, comme mon frère M. Didier est en train de le dire, le processus va impliquer à un certain moment les leaders des communautés, ceux qui n'ont pas touché aux armes et tout ça pour pouvoir aider à construire cette paix. Donc
merci.
Ce n'est pas qu'on rencontre le groupe d'armée, quand on a terminé deux ou trois jours après, bon c'est fini, on a trouvé la solution. C'est pour ça qu'on parle d'un processus qui ne sont pas des négociations pour le moment, qui sont des consultations, et le cercle pourra s'élargir au fur et à mesure que nous puissions avancer.
Merci professeur Serge Chibangu. On va vous rappeler sûrement un de ces quatre pour nous donner la suite de ces pourparlers ou ces assises qui se tiennent à Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés locaux de la RDC. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également au député Emmanuel Ngarouye et à Didier Bitaki. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La mise en onde est assurée par Alain Goy. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.